Bien. Nous avons donc le plaisir et la chance d'accueillir Éric Roubézy, qui est professeur à l'Université de Toulouse 2, c'est ça ? 3, première faute. Alors, je vais essayer d'en faire moins. Il est directeur du laboratoire d'anthropologie. Ça a changé, avant ça s'appelait anthropobiologie. D'anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse. C'est une unité de recherche CNRS. Éric ne va pas vous parler d'imagerie de synthèse, du moins je ne crois pas. Enfin, je ne l'ai pas invité pour ça. Et il va vous parler donc de quelles approches pour l'étude des populations du passé. Et je crois qu'à ce niveau-là, il est un des spécialistes, sinon le spécialiste dans ce domaine. Et vous allez voir ce qu'on peut arriver à faire maintenant, compte tenu des nouvelles techniques à notre disposition, pour essayer de comprendre, eh bien, disons, les derniers moments de notre histoire. Parce que forcément, on remonte de plus en plus dans le temps, mais ce n'est pas parce qu'on remonte de plus en plus dans le temps qu'on connaît forcément bien les choses, et vous allez voir qu'il y a des tas de questions intéressantes. Éric, merci, et c'est à toi.
Merci Michel. Mesdames et messieurs, monsieur le professeur, chers collègues, je vais vous parler aujourd'hui donc de l'approche de l'étude des populations du passé. Alors, tout d'abord, merci au professeur Michel Brunet pour cette invitation, et ensuite, deux mots d'introduction. Quel est finalement l'intérêt d'étudier les populations du passé ? Ce que j'appelle populations du passé, c'est-à-dire les populations qui ont peuplé notre planète ces 12 000 dernières années. L'intérêt, en fait, se situe à trois niveaux, selon moi. Premièrement, eh bien, c'est, comme vous l'indique sa diapositive, les modalités de peuplement récents. Finalement, je voyais que Michel Brunet faisait un cours sur les Néandertaliens et terminait en vous montrant que les hommes modernes avaient, conquis l'Europe ou remplacé les Néandertaliens. Et une des questions qu'on peut se demander, eh bien, sommes-nous les descendants de ces hommes modernes ? D'accord. Et c'est une des grandes questions, si vous voulez, qui est loin d'être réglée et qui intéresse aujourd'hui la recherche, et vous verrez comment on peut l'aborder. Deuxièmement, si vous voulez, quelle est l'origine de notre patrimoine génétique ? Alors, c'est une notion sur laquelle je vais revenir, mais pendant très longtemps, on a cru que, quand je vous dis pendant très longtemps, c'est finalement du 19e siècle, là, il y a 3-4 ans, on a pensé que les peuples étudier l'histoire des peuplements, c'était dire, ben, finalement, on a des hommes modernes qui sont arrivés en Europe, et puis ces hommes modernes sont petit à petit qui étaient des chasseurs-cueilleurs, sont devenus des agriculteurs, puis des gens de l'âge du... puis ils ont découvert le métal, etc., puis les grandes cités se sont mises en place, et puis on arrive à nous. Et finalement, on pouvait dire, mais nous sommes, en quelque sorte, les descendants de ces hommes modernes, et puis on pouvait donc prendre le schéma à l'envers, dire, mais il y a eu les hommes modernes avant nous, les agriculteurs, etc. Or, on s'aperçoit aujourd'hui, et ça va être une partie de mon propos, que ce n'est pas totalement exact. C'est-à-dire qu'il y a des régions du monde où les gens qui habitent sont les descendants des hommes modernes qui sont arrivés, mais ils ne sont sûrement pas les descendants de tous les hommes modernes. D'accord ? Et c'est là, si vous voulez, qu'il y a des nuances à apporter. En gros, je vais vous prendre un exemple qui est simple, et caricatural, et ensuite on rentrera dans le plus fin, C'est un peu comme quelqu'un qui étudierait l'origine des Américains actuels et qui étudierait les civilisations et qui dirait, bon, mais il y a eu des civilisations précolombiennes, etc., et qui dirait, mais les Américains actuels du Nord sont les descendants, finalement, des Amérindiens. Vous voyez bien que les Américains actuels ne sont pas les descendants des Amérindiens, bien qu'il y ait certainement une partie de leur patrimoine génétique qui soit actuellement présente chez eux. Donc toutes les populations, si vous étudiez la succession des populations ou étudiez l'origine de notre patrimoine génétique, c'est un peu différent, je reviendrai là-dessus. Et finalement, étudier les peuplements récents, c'est rentrer dans le débat nature-culture, parce que pendant très longtemps, les écoles se sont opposées sur ces éléments. Par exemple, quand on prend les agriculteurs, nous avions donc des chasseurs-cueilleurs en Europe, il y a environ 12 000 ans. Ces chasseurs-cueilleurs deviennent des agriculteurs, le « deviennent » étant guillemets, c'est ce que voient les archéologues. On a des chasseurs-cueilleurs, après on a des agriculteurs. Eh bien, vous pouvez expliquer cet élément de deux façons. Ou bien en disant, mais il y avait des chasseurs-cueilleurs, ils ont été remplacés par des agriculteurs, c'est-à-dire que vous retransposez ce que vient de vous dire Michel Brunet sur les hommes modernes et les néandertaliens par des questions de population. Une population d'agriculteurs a remplacé une population de chasseurs-cueilleurs, et là vous faites intervenir un élément qui est biologique, remplacement de population. Ou alors vous avez d'autres collègues qui sont persuadés que les agriculteurs, les chasseurs-cueilleurs, sont devenus des agriculteurs parce qu'ils ont reçu non pas de nouvelles populations, mais des techniques agricoles. Donc, si vous voulez, on se situe au niveau de ce débat. Voilà, si vous voulez, les trois intérêts de la question « Pourquoi étudier les peuplements ?» Alors, avant de se lancer dans ce qui se fait aujourd'hui, pour comprendre ce qui se fait aujourd'hui, il faut comprendre ce qui s'est fait jusqu'à ces dernières années. L'historique de ces questions, des questions actuelles, en fait, l'historique n'est pas très ancien. Il remonte à 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, on a bénéficié, même 40 ans, des cartes de datation absolue grâce au carbone 14. Et bénéficiant de ces cartes de datation absolue grâce au carbone 14, dans les années 1960-1965, les auteurs et les chercheurs se sont posé la question en se disant, voyons, il y avait des hommes modernes en Europe, disons depuis 40 000 ans, et puis qui étaient certainement des chasseurs-cueilleurs, et ces chasseurs-cueilleurs se sont devenus des agriculteurs, en gros, à partir de 10 000 avant Jésus-Christ. Quand on regarde les dates d'apparition de l'agriculture, on s'aperçoit que l'agriculture apparaît tout d'abord dans cette zone, en Anatolie, et puis vous voyez que les dates, eh bien, plus on va vers l'ouest, sont de plus en plus récentes. Et on s'est dit donc qu'il y a eu une diffusion de l'agriculture. Et pour cette diffusion de l'agriculture, se sont donc affrontées deux écoles, comme je vous le disais à l'instant. D'une part, une école qui a dit, eh bien, ce sont des techniques qui sont passées de proche en proche, et une autre école qui a dit, non, non, ce sont les agriculteurs qui ont diffusé. Et pour dire que ce sont les agriculteurs qui ont diffusé, la génétique des populations contemporaines est venue appuyer cette hypothèse. Alors, la génétique des populations contemporaines, dans les années 80, elle ne portait pas actuellement comme directement sur les gènes, si vous voulez, elle portait sur ce qu'on appelle le produit d'expression des gènes, dont les plus connus sont les groupes sanguins. D'accord ? On est A, B, O, etc., AB. Et donc, là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est génétique, mais on n'est pas directement sur le gène, on est sur le produit d'expression des gènes. Et donc, les chercheurs ont étudié plusieurs gènes en Europe, plusieurs produits d'expression des gènes. Pas des études que je vous épargnerai, ils ont étudié ces fréquences et ils ont déterminé, si vous voulez, une carte génétique de l'Europe. Et là, ils se sont aperçus, si vous voulez, qu'il y avait un gradient depuis la Turquie, ici, jusqu'à l'ouest. Et ils ont dit, ben écoutez, on peut faire un parallèle entre ces deux cartes. Et finalement, la génétique contemporaine renforce le modèle biologique. c'est-à-dire qu'on a bien eu un déplacement de population. D'accord. Et ce déplacement de population allait bien dans le sens, parce que de ce qu'on pensait à l'époque, à savoir que les agriculteurs, les chasseurs-cueilleurs avaient une faible démographie, puisque de toute façon, ils sont dépendants du milieu. Une fois que vous avez tué tout le bétail, tous les animaux sauvages, il n'y a plus rien à manger, donc vous êtes forcément régulé, alors que les agriculteurs, des champs, on peut en développer. Et ils ont dit, mais les agriculteurs avaient une démographie supérieure, ce qui est certainement vrai, et ils ont en quelque sorte submergé, d'accord, l'Europe. Alors c'était c'était un phénomène qui était tout de même progressif, qui s'était passé en quelques milliers d'années. Dans le même temps, vous allez me dire, mais que faisaient les archéologues ? Alors, les archéologues, eux, ils décrivaient les cultures, mais que faisaient les anthropologues ? Alors, les anthropologues, eux, ils étudient les squelettes. Malheureusement, pour les débuts de l'agriculture, les squelettes, eh bien, ils sont rares. Et je vous ai mis quelques photos, parce que là, c'est un des seuls qui soit bien conservé en Europe. Et puis, d'une façon générale, ils sont relativement mal conservés, comme vous pouvez le voir, l'ensemble de ces opilés. Là-dessus, on a eu ce qu'on a appelé la nouvelle synthèse, c'est-à-dire que des chercheurs se sont dit, mais alors, s'il y a eu une diffusion de population au néolithique, au début de l'agriculture, si cette diffusion a submergé les chasseurs-cueilleurs, on a peut-être là l'explication du fait que les langues qui sont parlées en Europe, vous voyez par exemple ici, l'origine des langues parlées en Europe, ce bleu clair, là, eh bien, on cherchait pour ces langues une origine commune et on s'est dit, mais c'est peut-être dû au fait que, comme tout est parti de là, il y a peut-être eu une diffusion vers là et vers là et tout est à rapporter au début du néolithique. Et c'est donc ce qu'on a appelé la nouvelle synthèse, c'est-à-dire diffusion de sujets, diffusion de nouvelles techniques et en même temps, pourquoi pas, diffusion de langues. Ces nouvelles synthèses ont correspondu à une époque où on a pu s'intéresser non plus aux produits d'expression des gènes, mais aux gènes eux-mêmes, c'est-à-dire à des parties de notre génome qui permettent de suivre assez finement les lignées féminines, c'est-à-dire que nous avons le même, j'ai le même, que ma maman, que ma grand-mère du côté maternel, que d'autres parties du génome permettent de suivre les lignées paternelles, pour les hommes, ont le même que leur père, que leur grand-père du côté paternel, etc. Et à ce moment-là, il a commencé à avoir des controverses, si vous voulez, sur cette nouvelle synthèse, parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on suivait les lignées maternelles, eh bien, ce fameux gradient dont je vous parlais tout à l'heure sur le produit d'expression des gènes, on ne le retrouvait pas forcément. D'accord. On ne le retrouvait pas forcément, et quand on le suivait sur le marqueur du côté paternel, on ne le retrouvait pas forcément non plus. D'accord. Donc les auteurs, il y a des auteurs qui ont dit, mais peut-être, il y a quelque chose qui est totalement différent. Alors, je pourrais éventuellement répondre à vos questions sur le fait qu'on le retrouvait ou qu'on ne le retrouvait pas forcément. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça a été très discuté. Alors là aussi, pourquoi ça a été très discuté ? C'est parce que finalement, le génome, si vous voulez, est tellement complexe qu'à la fin, on arrive à des procédures de traitement statistique. Procédures de traitement statistique, procédures d'ancrage dans le temps. C'est-à-dire qu'on observe quelque chose et on se dit, mais de quand ça date ? Or, pour savoir de quand ça date, vous avez différentes procédures dont une horloge moléculaire, c'est-à-dire qu'on se dit ben, il y a une mutation tous les autant. Pour savoir à quelle date quand se font ces mutations, si vous voulez, il faut calibrer ça par rapport aux fossiles. Alors c'est assez intéressant de montrer dans cette salle, avec Michel Brunet qui va sourire, l'horloge moléculaire, à partir du moment où on disait, écoutez, l'ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé, il a 4 millions d'années, ça devient totalement différent que si on dit il a 8 millions d'années. En gros, on double l'horloge moléculaire. Alors là aussi, on ne la double pas parce que ce n'est pas quelque chose qui est totalement linéaire. On ne la double pas, mais vous voyez, ces ancrages dans le temps peuvent finalement varier très vite. Et pour l'Europe, par exemple, vous avez eu des discussions qui ne sont pas closes du tout. Vous avez des auteurs qui ont dit que, oui, certainement, des gens sont arrivés du Proche-Orient au néolithique, mais contrairement à ce qui a été dit avant, ce n'est pas 100% de nos gènes. Combien dans cette salle de nos gènes proviennent de gens du néolithique qui sont arrivés du Proche-Orient ? Eh bien, jusqu'en 1980, on était persuadés, on aurait dit, allez, 100%, 85%. Eh bien là, actuellement, vous avez des gens qui disent, oh non, 13% maximum. Mais il y en a qui continuent à dire 100%. Donc, il y en a qui disent qu'il y a dans cette salle 100% de notre patrimoine génétique qui serait arrivé du Proche-Orient au début du Néolithique, c'est-à-dire environ pour l'Europe occidentale 7500 avant Jésus-Christ, tandis que vous en avez d'autres qui pensent que, eh bien, il n'y en a peut-être que 13% ou d'autres 100%. Donc, si vous voulez, des éléments qui sont très différents, vous voyez bien que c'est une question qui est loin d'être close. Alors, à la fin des années 90, on a pu faire des études génétiques directement sur les squelettes. En faisant des études génétiques directement sur les squelettes, on s'est dit, c'est fantastique. D'accord ? C'est fantastique, ça va nous résoudre toutes nos questions. Il suffit d'étudier des squelettes du début du Néolithique pour répondre à la question, est-ce que ces sujets venaient du Proche-Orient, si vous voulez, ou est-ce que c'était les descendants des chasseurs-cueilleurs ? Premier écueil, ben, pour dire ça, il faudrait qu'on ait déjà de l'ADN de chasseurs-cueilleurs. D'accord ? Mais on n'en avait pas, mais les chercheurs se sont quand même dit, on va voir ce que ça va donner. Et là, si vous voulez, à la surprise générale, d'une part, on n'a pas répondu à la question, parce qu'on n'a pas de sujet de chasseurs-cueilleurs, mais surtout à la surprise générale, on s'est aperçu qu'il y a 25% des lignées maternelles qui sont retrouvées dans ce néolithique qui n'existent plus ou presque plus actuellement. C'est-à-dire que on s'apercevait que la question qu'on se posait finalement, eh bien, elle était en partie fausse. D'accord ? On était à savoir, c'est comme quelqu'un qui dirait, est-ce qu'aux États-Unis actuellement, il y a un chercheur qui arrive d'une autre planète et qui se dit, on va étudier ces populations américaines. Il y en a certains qui diraient, ce sont les descendants des Amérindiens, on devrait trouver 100% de génome amérindien. Il y en a un autre qui dirait, ce sont non, des descendants des Africains, on doit trouver 100% de génome africain. Et puis on fait l'analyse, on s'aperçoit qu'il y a une majorité de génome européen. On se dit, là, ça ne colle plus. Et bien là, c'est pareil, si vous voulez. Il y a une grande partie de ce génome qui a disparu. Alors, actuellement, ben c'est le centre des questions. On s'est dit, comment se fait-il qu'une partie a disparu ? Alors, ce n'est pas du tout résolu, mais dans le même temps, si vous voyez, les chercheurs, ils ont dit, ils se sont trompés, il y a eu des contaminations, etc. Notre laboratoire a eu l'occasion, là, je vous mets une des études, mais il y en a eu deux, d'étudier dans le sud de la France des sujets relevant d'une part de Montpellier, qui, avant la Grande Peste, était l'une des grandes villes de l'Europe médiévale, des trois ou quatre grandes villes de l'Europe médiévale. Imaginez que Montpellier a été formé en 985 après Jésus-Christ. En 1348, c'était une des plus grandes villes de la Méditerranée et de l'Europe médiévale. Il y avait une expansion démographique majeure. J'ai fait les calculs, si Montpellier avait continué sur son expansion démographique majeure de ces trois siècles-là, elle aurait actuellement plus d'un milliard de sujets. Donc, ça se saurait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Montpellier, qui était une des grandes villes de l'Occident médiéval, a été totalement ravagée par la Grande Peste. Et donc, nous avons étudié des sujets, la Grande Peste, qui en 1348 a tué la moitié ou deux tiers, suivant les estimations de la population européenne. Eh bien, nous avons étudié des sujets juste antérieurs à la Grande Peste à Montpellier, et nous avons aussi étudié des sujets juste antérieurs à la Grande Peste dans un petit village, Villarnaud, à côté de Perpignan, qui, lui, a été totalement éradiqué par la Grande Peste. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? On s'est aperçu que vous aviez une grande partie des lignées maternelles de cette époque-là, enfin, que la totalité, premièrement, des lignées maternelles de cette époque-là était typiquement européenne, ce qui, en soi, n'était pas une découverte, mais nous avons surtout mis en évidence que vous aviez 25% des lignées qui ont disparu. Si vous voulez. Il y a 25% des gens qui vivaient au Moyen-Âge, avant 1348, à Montpellier ou à Villarnaud, en gros, dans une partie de la France méditerranéenne, qui ont finalement, une partie de ces femmes, 25%, n'ont pas laissé de descendants. Alors, elles n'ont pas laissé de descendance, où ça a disparu. Comment ça peut s'expliquer ? Eh bien, ça peut s'expliquer de façon relativement simple. Imaginez que vous ayez une lignée maternelle qui soit très bien représentée. Elle est très bien représentée, elle représente sur 100 sujets, 50 sujets. Ensuite, imaginez une lignée maternelle qui soit représentée que par un ou deux sujets. Là-dessus, vous avez une épidémie qui arrive et qui tue la moitié ou les deux tiers de la population. Ceux qui sont représentés par 50 sujets, ils ont, pour que sur 50 sur 100, vous tuez tout le monde, la probabilité est faible. D'accord ? Donc, à la génération suivante, ceux-là vont être représentés. Ceux qui étaient représentés que par 1 ou 2%, la probabilité qu'ils disparaissent totalement est très importante et ils vont disparaître. Ce qui fait qu'à la génération d'après, même s'ils n'ont pas totalement disparu, ceux qui étaient 50% se retrouvent 80 et 90%. Et de génération en génération, on a de ce fait, si vous voulez, une variabilité qui change totalement. Et nous savons aujourd'hui, grâce à des travaux similaires qui ont été conduits par nos collègues anglophones, notamment en Grande-Bretagne, que, contrairement à une idée reçue, si vous voulez, la variabilité était bien plus importante en Europe, vraisemblablement, si on s'étend un peu, avant la grande peste qu'après et qu'aujourd'hui. D'accord. Pourquoi ? Parce que nous sommes à ce que les scientifiques appellent, moins de juste 7 siècles après, un énorme goulot d'étranglement. D'accord. Goulot d'étranglement qui s'est manifesté par la disparition en 3 ans de la moitié aux 2/3 de la population européenne. Maintenant, où en sommes-nous ? Eh bien, la question qui se pose, c'est comment étudier ces populations du passé et comment répondre à ces nouveaux défis et ces nouveaux enjeux. Il y a une solution donc, qui est simple, que j'ai déjà abordée avec vous, c'est on va étudier les populations contemporaines provenant d'une zone, ici la Yakoutie, dont je vous parlerai tout à l'heure, et d'autre part, des populations anciennes. Et on va comparer les populations du passé et les populations du présent qui habitent dans une même zone. Comparer les populations du passé et du présent n'est pas toujours aussi évident qu'il y paraît. Pourquoi ce n'est pas toujours aussi facile qu'il y paraît ? Eh bien, définir un échantillon de population contemporaine, c'est assez facile. Mes filles me diraient « Attention au droit à l'image, papa !» D'autre part, pour le passé, c'est souvent plus difficile. On trouve des squelettes, mais il faut d'abord savoir à quoi ils correspondent. Vous voyez bien que dans un cimetière, on a plusieurs générations qui peuvent s'étendre sur plusieurs siècles, parfois. Donc, les populations contemporaines vont servir de référence pour définir des modèles, c'est-à-dire que nous allons étudier ces populations contemporaines avec des marqueurs génétiques. À partir de l'étude de ces populations contemporaines, nous allons faire des modèles en disant, tiens, le peuplement provient, c'est peut-être une substitution de chasseurs-cueilleurs par des agriculteurs, d'agriculteurs par des chasseurs-cueilleurs, par exemple, agriculteurs qui sont venus du Proche-Orient, tandis que les chasseurs-cueilleurs étaient plutôt locaux. Et puis, on étudie les passés, les données du passé. Soit les données du passé vont dans le sens du modèle actuel. Si elles vont dans le sens du modèle actuel, le modèle actuel n'est pas réfuté et il semble que ce soit le bon modèle. D'accord. Soit elles n'y vont pas, et c'est ce qui se passe pour les néolithiques, et là, il y a un problème. Quoi. Ou bien les échantillons ne sont pas comparables, c'est la première chose à laquelle il faut penser. D'accord. On s'est trompé complètement, on a échantillonné des gens actuellement qui n'avaient rien à voir parce qu'on est allé, ça peut arriver, hein, surtout quand vous êtes à l'étranger et que vous n'êtes pas entouré d'ethnologues dans une communauté qui n'a rien à voir, qui est arrivée il y a quelque temps. Mais une fois que ces éléments sont corrigés et qu'on a, si vous voulez, bien cadré ces éléments, eh bien on peut dire que le modèle tiré des populations contemporaines, il est réfuté. Il est réfuté, et à ce moment-là, il faut commencer à réfléchir sur ce qui a pu se passer. Ainsi, si vous voulez, c'est les derniers travaux de notre laboratoire qui viennent d'être publiés il y a moins d'une semaine montrent que la Sibérie du Sud actuellement est peuplée par des sujets d'origine européenne qui sont arrivés au XVIIe siècle avec les Russes, d'accord, Et avant, et ces sujets d'origine européenne ont été en contact avec des sujets mongoloïdes. Ces sujets mongoloïdes, on les voit très bien arriver avec les Gengis Khan et ses successeurs, mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? On pense qu'il y avait, pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait beaucoup de sujets mongoloïdes qui étaient là, finalement, puisqu'on était en Asie, la Sibérie du Sud relevant de l'Asie. Eh bien, on s'aperçoit en étudiant les sujets de l'âge du bronze, 1700 avant Jésus-Christ, que à l'âge du bronze, le peuplement européen s'étendait jusqu'au lac Baïkal. D'accord ? Des populations d'origine européenne s'étendaient jusqu'au lac Baïkal. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et qui permet de comprendre ces fameux sujets qui sont les momies du Taklamakan, d'accord, dans l'ouest de la Chine, où on disait on a des sujets d'origine européenne. Alors vous aviez toutes les hypothèses possibles et inimaginables, même les plus farfelues qui avaient été développées, en se disant, regardez, on est dans un monde asiatique, et puis là, on trouve des sujets d'origine européenne en pleine Chine de l'Ouest, d'accord, à l'âge du bronze et à l'âge du fer. Mais que viennent-ils faire là? En fait, l'ADN nous révèle aujourd'hui qu'à l'âge du bronze, ben, le Taklamakan, on s'en était aperçu parce qu'ils sont suffisamment bien conservés pour qu'il n'y ait pas besoin d'études génétiques dans certains cas, qu'on avait des populations européennes, en fait, qui allaient jusqu'au lac Baïkal. Donc, vous voyez, ça va, par exemple, je dirais, pas totalement dans le sens de ce que nous donne la génétique contemporaine. Normal, pourquoi? Parce qu'on se trouve dans un modèle qui est le modèle, finalement, entre guillemets, là aussi, Amérique, où on a vraiment une population qui en a supplanté une autre. Alors, quelle démarche, si vous voulez, pour l'étude des populations du passé? Comment on va les étudier, ces populations du passé? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit. La grande question qui se pose, il faut d'abord cerner nos échantillons, les populations du passé. Cerner nos échantillons, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien comprendre les ensembles funéraires. Il faut d'abord bien comprendre les ensembles funéraires. Est-ce que vous avez, par exemple, beaucoup de sujets qui sont parents entre eux? Parce que si vous avez beaucoup de sujets qui sont parents entre eux, eh bien, ça veut dire que si vous les mettez dans des études de population comme ça, en fait, si vous avez un père et ses trois fils, d'accord, et que vous étudiez 40 sujets, déjà, vous avez 10% de l'information qui est totalement biaisée puisque vous avez répété 4 fois la même chose. Ensuite, une fois que vous avez bien compris comment étaient constituées les populations du passé, les échantillons de base, il faut se demander comment ces gens vivaient et quelles étaient, par exemple, leurs structures de parenté. Michel Brunet vous a déjà largement parlé, par exemple, de ces questions sur la façon dont ils vivaient. J'entendais tout à l'heure son cours avec le régime alimentaire des Néandertaliens. Mais pour les populations plus récentes, on peut aller plus loin, se demander, par exemple, est-ce que les hommes restaient toujours au même endroit, d'accord? Est-ce qu'ils allaient vivre dans la famille de leur femme ou est-ce que c'était les femmes qui allaient vivre dans la famille de leur mari? Et ensuite, une fois qu'on a réglé ces deux questions, on peut s'intéresser à l'histoire du peuplement et l'évolution des hommes et des maladies. Eh bien, je vais vous donner un exemple de ces trois éléments, chacun en raison de 5-7 minutes, ce qui nous conduira vers 12h05, 12h10. Alors, je vous ai pris trois exemples qui sont un peu exotiques, d'accord? C'est la fin de la matinée, et mes exemples sont liés au fait qu'il nous fallait, d'une part, de l'ADN qui soit bien conservé. L'ADN, il est bien conservé sur les restes anciens, dans les régions froides, d'accord? Mais ça se comprend, si vous voulez. Ça se comprend parce que il vaut mieux être au frigo, la matière organique se décompose moins dans un frigo que dans un milieu chaud. Et donc, je vous ai pris trois exemples, un qui se passe en Mongolie, un autre qui se passe en Yakoutie, Sibérie orientale, et puis je vous ai quand même pris un troisième exemple parce que le grand risque, c'est que vous me disiez, écoutez, vous allez faire beaucoup de progrès qui suivent dans les années qui viennent en Sibérie, mais la Sibérie, ça fait peut-être 13 millions de kilomètres carrés, mais ça ne représente pas le monde. Donc, je vous ai pris un autre exemple, qui est un exemple égyptien. Alors, dans ces exemples, je vais vous faire premièrement une étude. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'étude du monde des morts? Essayer de comprendre l'échantillon. Pour cette étude du monde des morts, qu'est-ce qu'on peut tirer d'une étude d'échantillon? J'ai pris une nécropole que nous avons eu la chance de fouiller dans le nord de la Mongolie au début des années 90, et d'étudier. C'est une nécropole qui a de culture dite Xiongnu. Ces Xiongnu se sont étalés chronologiquement du 5e siècle avant au 2e siècle après. Et ces Xiongnu, ils sont bien connus, y compris de vous, puisque c'est contre eux que les Chinois ont construit la première muraille, si vous voulez. Ces Xiongnu, ils se sont associés et ils ont formé le premier empire des steppes. La nécropole, vous voyez, là vous avez une grande, dans une vallée glaciaire, une grande rivière qui passe, qui s'appelle effectivement Egingol, qui va se jeter dans la Selenga, qui est le principal fleuve qui alimente le Baïkal. Donc on a 250 km au sud du Baïkal. Très rapidement, une vue de cette nécropole. Ce qui est assez intéressant dans cette vue de cette nécropole, c'est que vous avez trois secteurs, en gros, et on a des secteurs qui sont plus anciens, qui sont en blanc ici, et on a l'impression, si vous voulez, cette nécropole s'étend sur 4 siècles, donc c'est rien du tout d'un point de vue de la population, puisqu'on a fouillé une centaine de tombes sur 4 siècles, donc alors qu'une une famille de 8 sujets fournit largement plus sur 4 siècles ou fournit à peu près une centaine de tombes sur 4 siècles. Elle en fournit même plus en comptant les jeunes enfants à l'époque avant la découverte des vaccinations. Donc, on a, si vous voulez, une nécropole qui s'est étendue dans ce sens. C'était des tombes qui étaient profondes et très riches, parfois pillées, délimitées par des cercles de pierre avec plusieurs cercueils. On en voit un avec un coffre à offrande. Je ne rentrerai pas trop dans ce détail. Et nous avons étudié, si vous voulez, l'ADN. Alors, je vous ai mis un peu ces exemples pour savoir comment ça marche, si vous voulez, ces études sur l'ADN. Eh bien, je dirais qu'il faut d'abord l'ADN au moment du décès du sujet et donc dans ses cellules, et dans les heures, les minutes et les heures qui suivent la mort, si vous voulez, on va voir une dégradation cellulaire. On commence à voir notamment le noyau dans lequel il y a une partie de l'ADN qui explose, et l'ADN va se dégrader, c'est-à-dire qu'il va se couper en morceaux. Alors, vous avez deux solutions. Ou bien, avec le temps, il se coupe en morceaux de plus en plus petits, et puis c'est fini, il n'y en a plus. D'accord ? Ça disparaît. Ou alors, il va se couper en morceaux qui font, comme disent les scientifiques, on compte ça en paires de bases, comme on pourrait compter en kilomètres, qui font 300, 400 paires de bases au maximum, ce qui est très petit pour lire une information, et donc on est obligé de faire ce qu'on appelle des morceaux chevauchants, c'est-à-dire qu'on va en lire 200 comme ça, puis 200 comme ça pour allonger les séquences. Donc, vous voyez, on fraise le dessus, de manière à tomber sur de l'os, je dirais, sain. Et alors là, très rapidement, qu'est-ce qui se passe quand on regarde cette nécropole ? En noir, vous avez tous les sujets qui ont pu faire l'objet d'une étude génétique. Vous allez me dire, mais pourquoi vous ne les avez pas tous étudiés ? Ben, en fait, c'est que les autres, ça n'a pas marché. Oui, il faut quand même des os qui soient relativement bien conservés. Donc, on a étudié, si vous voulez, des marqueurs qui permettent, dit des STR, vous voyez, pour des petits fragments, STR, qui vous montrent qu'il y a certaines tombes où on a des relations de parenté qui sont proches. Ça permet d'étudier des relations de parenté qui sont proches. Et puis, en doublant ces études de STR, de lignées qui prennent en compte, de marqueurs qui prennent en compte les lignées paternelles, c'est le cas ici, ou qui peuvent prendre en compte les lignées maternelles, eh bien, on arrive à définir des relations de parenté beaucoup plus proches. Ainsi, vous avez ici 57, on arrive à savoir que 57 était le père, que 59 était la mère, et 58 était le fils. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ça vous permet, par exemple, d'avoir des éléments sur la façon dont a été conçue, par exemple, cette nécropole. Il est évident, si vous voulez, quand on voit les tombes sur le terrain plus que sur le plan, qu'ici, en fait, le fils est décédé avant le père. Hein. Mais ce n'est pas étonnant. On a malheureusement des sujets qui peuvent... on n'est pas dans une logique papa, maman et l'enfant. Là, il y avait le fils est décédé relativement jeune, c'est un adulte jeune, tandis que le père était un adulte âgé. Donc on arrive ainsi, si vous voulez, à préciser les liens de parenté dans cette nécropole. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Eh bien, on s'aperçoit, si vous voulez, que la nécropole a évolué sur un mode qui est très particulier. En fait, quand cette nécropole a été mise en place, elle a été mise en place au IVe siècle avant notre ère, dans deux parties. Une première partie qui se situe ici, et là, on avait des tombes qui étaient vraiment très riches, avec même des tombes doubles. et qui étaient pour certaines des tombes à sacrifice. En effet, on a retrouvé une tombe où vous aviez une femme qui était allongée à côté d'un homme, sans lien de parenté génétique avec lui, et la langue de la femme avait été déposée dans le coffre à offrande de l'homme. D'accord ? Donc, pratique bizarre, on se situe aux confins de la Mongolie. Et il y a bien longtemps, et les Mongols étaient des gens qui étaient, de ce point de vue culturel, avaient des pratiques qui étaient très particulières. Donc on a, si vous voulez, un ensemble de tombes doubles qui rappellent tout à fait ce qui se fait au même moment, je dirais dans l'Altaï, à quelques centaines de kilomètres de là. Ici, on a un autre pool, un autre ensemble de tombes qui se met en place et qui sont des tombes qui sont, de la même, pour certaines, de la même lignée maternelle, mais qui sont quand même des tombes qui ne sont plus celles, je dirais, d'une élite aussi importante. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que l'ensemble de la nécropole, si vous voulez, ce sont des tombes de l'élite. Pourquoi on le sait ? Parce que c'est Sion-Nous. Eh bien, je vous ai dit, ça ne correspond pas du tout à une famille. En fait, ça correspond à l'élite, certainement, de quelques tribus, ou de peut-être plusieurs tribus, mais on pense à l'heure actuelle qu'il n'y en avait qu'une. Et cette élite était amené à cet endroit pour y être inhumé. Et d'ailleurs, la plupart des cadavres, quand ils sont arrivés, étaient en partie déjà décomposés. C'est ce qu'on appelle des sépultures secondaires. Et on sait aussi qu'il s'agit d'une élite, puisque les empereurs chinois envoyaient au grand chef Xionnous des miroirs, si vous voulez, qui étaient cassés en deux, avec une partie finalement pour le chef, une autre partie qui servait, si vous voulez, de message. Et on a beaucoup de soieries chinoises à cet endroit. Et donc, cette nécropole se met en place sur ce modèle de l'élite. Elle va se partir dans ce sens. Et finalement, on voit bien que des liens de parenté ont existé, mais que ce n'est pas eux qui ont structuré la nécropole. Ça veut dire aussi que d'un point de vue d'élite, il y avait certainement des chefs, mais qu'on n'avait pas forcément une transmission héréditaire de la charge. Et puis, à la fin, vous voyez que là, en fait, ils sont tous parents. Il y a un père, ses fils, des frères, et les autres, on ne les a pas indiqués, mais on sait aujourd'hui, vous voyez, par exemple, 48, là, que ça devait être certainement une cousine. Là. Et on sait aussi que cette partie, c'est la plus récente de la nécropole. Elle date du 3e, 4e siècle de notre ère. Et quand nous avons fouillé cette nécropole, nos collègues mongols qui fouillent avec nous et qui sont les meilleurs spécialistes de cette culture nous ont dit, mais c'est quand même bizarre, on est dans une nécropole Xionnous, c'est-à-dire mongole, entre guillemets, et les pratiques funéraires que nous avons là sont plutôt des pratiques funéraires qui nous rappellent des populations turques. D'accord ? Et on comprend, une fois qu'on a les données génétiques, ce qui s'est passé. Ces tombes, ici, 3 ou 4 siècles pour se mettre en place. Ici, ça a été bouclé en une ou deux générations. Et c'est la dernière, et c'est un peu à l'écart. En fait, les Xionnous ont été battus par des tribus qui étaient d'origine turque. D'accord ? Et ces Xionnous qui ont été battus par des tribus d'origine turque, de toute évidence, si on essaye de faire cadrer, quand je dis de toute évidence, et selon l'hypothèse la plus probable, quand on essaye de faire cadrer données biologiques et données culturelles, eh bien, vous avez un chef qui s'y est fait enterrer avec sa famille à côté pour montrer, si vous voulez, que ben, lui se rattachait à ça, mais les avait vaincus. D'accord. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si c'était une tribu turque, on sait qu'une partie des Turcs sont... Les plus vieilles inscriptions en langue turque sont sur l'Oron, qui est un fleuve mongol. Et on sait que ces tribus turques, ou turcophones, si vous voulez, ont migré, et ce sont elles qui sont allées prendre le contrôle de l'Anatolie, et quand elles en ont pris le contrôle, l'Anatolie est devenue la Turquie. Eh bien, nous avons étudié, si vous voulez, les lignées du Y de cette nécropole, et qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? La totalité des lignées du Y, ici, ont disparu. On ne les retrouve plus dans les populations contemporaines. Il n'y a que celles qui sont ici, dont on en retrouve une, ou en Turquie. Okay. Et alors, la question qui se pose, nous avons étudié les gens qui sont les gens qui vivent actuellement dans la vallée, sur 17 kilomètres. Or, c'est une vallée qui est très fermée. Quand on y est rentré en 1992, à part une expédition russe, personne n'y était rentré. Et les gens, évidemment, ils ne vivaient pas en totale autarcie. C'était eux qui allaient à la ville. D'accord ? Mais jamais personne n'est rentré dans la vallée. parce que c'est une portion de vallée en fait qui est coincée, si vous voulez, par un détroit, des falaises qui la rétrécissent, et ensuite elle se jette dans la Selenga. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? Actuellement, vous avez 25% des gens de la vallée qui descendent quelque part de ces sujets-là du côté maternel. Il n'y a que 3% des sujets de Mongolie qui sont liés aux gens de cette vallée, d'accord ? En gros, sur les échantillons qu'on a. Mais tandis qu'il y a 25% quand même du côté maternel dans la vallée qui descendent de ces éléments-là. Et du côté paternel, il n'y a personne. Personne, personne. Et on en a fait des banques de données. On en a fait. Pourquoi n'y a-t-il personne ? Parce que nous sommes... Là, on rentre dans le cadre des hypothèses, si vous voulez. Est-ce qu'il y aurait eu une peste qui aurait tué que les hommes ? Ça semble peu probable, si vous voulez. En revanche, vous vous souvenez, je vous ai dit, nous étions dans un contexte culturel très particulier. Sur les Xiongnu, on a peu de données. On a les sources chinoises. Mais à supposer que, dans les siècles qui ont suivi, ils aient repris des pratiques antérieures, à l'époque que Gengis Khanide, une des grandes pratiques, quand même, quand on devenait chef, c'était d'éliminer tous on prenait le pouvoir et en fait une bonne partie des sujets d'origine paternelle qui avaient été en relation avec le chef précédent étaient éliminés. D'accord ? Donc c'est la première solution. C'est-à-dire comme on est dans une nécropole de l'élite, et je vous ai dit qu'il y avait peu de transmission héréditaire, une bonne partie finalement des hommes étaient éliminés par leurs successeurs quand il y avait des conflits ou autres. Et l'autre partie, qui est suggérée plutôt par certains collègues, c'est que c'était des tribus qui étaient des tribus de nomades, et il est sûr qu'il y avait une partie des hommes qui partaient à la guerre, d'accord, et qui partaient loin à la guerre. Or, ce qui est vrai aussi, c'est que le nombre de sujets, cette nécropole, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on va s'arrêter là, est celle du monde, d'accord, qui a livré le plus grand nombre de sujets dans une nécropole de l'élite tués à l'arme blanche. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était des nécropoles de gens de l'élite, parmi et de guerriers. Et de toute façon, il était très. Ça, ce n'est pas des sites, mais ils étaient, je vous ai dit, en bas d'un point de vue culturel, en relation avec les sites. Il était très mal vu chez les sites, quand on était un guerrier, de vivre longtemps. Ça a été repris après par le maréchal Ney, sous Napoléon. Un hussard qui a plus de 35 ans est un pleutre. Deuxième étude, celle sur la Yakoutie. Je vous ai pris cette étude sur la Yakoutie parce qu'elle est totalement étonnante. Et alors que pour nous, vu de France, bon, c'est à quelques milliers de kilomètres, mais finalement, on peut penser qu'on est dans un même contexte. D'un point de vue biologique, vous allez voir, c'est l'inverse. Vous vous souvenez que des Mongols descendants des Gingols, des hommes des Gingols, il n'y en a plus. Eh bien, en Yakoutie, c'est totalement différent. Donc la Yakoutie, c'est dans cette zone. Et moi, je vous parle de la Yakoutie centrale, qui est le long d'un des trois grands fleuves russes qu'on appelle la Léna, qui fait 5 km de large en moyenne à cet endroit-là. Vous avez actuellement, ici, la population Yakout. Les Yakout, aujourd'hui, ils sont 1 million. Sur ce 1 million, vous avez 500 000 autochtones. Sur ces 500 000 autochtones, grosso modo, comme dans toute population, la moitié d'hommes, la moitié de femmes, 250 000 hommes. Sur ces 250 000 hommes, vous en avez la moitié, soit 125 000, qui descendent de deux fondateurs. D'accord. Deux fondateurs. Et ces deux fondateurs, on les retrouve où ? Eh bien, on les retrouve au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, quand les Yakoutes vont peupler ce qui est maintenant la Yakoutie. D'accord. Les Yakoutes, ce sont des sujets, une population, donc, qui parlent, excusez-moi, je voulais vérifier quelque chose, donc les Yakoutes, ici, c'est une population qui est tout à fait particulière, elle vit l'hiver par moins 50 degrés, pendant deux mois, janvier-février, et on s'attendrait à trouver dans cette zone des éleveurs de rennes et des gens qui parlent une langue d'origine sibérienne. Eh bien, nous avons raison, tout autour d'eux, il y a des gens qui parlent des langues d'origine sibérienne et qui sont des éleveurs de rennes, mais eux, les Yakoutes, ce sont des éleveurs de chevaux et de vaches. D'accord. La Yakoutie, en été, ça ressemble à la Normandie. Des éleveurs de chevaux et de vaches, et qui parlent une langue d'origine, en grande partie, turcophone. Donc l'hypothèse, si vous voulez, c'est pour ça que nous travaillons dans cette zone, c'est qu'on a eu des sujets qui sont arrivés en Yakoutie depuis le sud, et pour vous résumer, à la suite de l'explosion de l'empire de Genghis Khan, vous avez une partie de mes populations qui ont pu migrer vers l'ouest, ce on a tous entendu parler, et on aurait une population, une partie qui aurait pu migrer vers le nord. Donc ceci au XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle. Eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, dès les plus anciennes tombes, on retrouve ces deux fondateurs porteurs de cette Y qui actuellement est portée par plus de 50% de la population. Alors la question qui se pose, si vous voulez, c'est comment, quelle est la taille de ce groupe qui est arrivé, d'accord, et comment se fait-il que deux sujets au sein de ce groupe aient autant de descendants à l'heure actuelle. Alors la taille de la population qui est arrivée, on peut faire différents types de simulations. Alors ça dépend si on parle effectivement de ceux qui ont légué un patrimoine génétique, de ceux qui n'en ont pas légué, etc. Il y a des collègues qui travaillent sur le patrimoine, qui travaillent plutôt sur le patrimoine génétique, nous sur la taille des groupes. En gros, on varie entre 130 et 500, 600 sujets qui arrivent en Yakoutie. Ils arrivent en Yakoutie, moi je pense en peut-être plusieurs vagues, et ils s'installent en Yakoutie. Ils s'installent en Yakoutie parce que c'était le seul endroit de la Sibérie où on peut élever des vaches et des chevaux. Pour des questions sur lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail, mais en gros, il y a des lacs, d'accord, des alas, et autour de ces lacs, il y a des prairies, déjà naturelles. Donc on peut élever des vaches et des chevaux, ailleurs c'est la forêt sibérienne. Donc, ils s'installent, et en fait, excusez-moi, au XVIIIe siècle, il y a une prospérité énorme qui s'abat. L'État russe décide de conquérir la Sibérie pour le commerce des fourrures. Au XVIIIe siècle, le commerce des fourrures représente 10% du produit national brut de la Russie. Donc, ce que les Américains ont fait en trois siècles, la conquête de l'Ouest, la conquête de l'Est s'est faite en 80 ans. On avait des motifs économiques, et plutôt que d'un côté, on a massacré les Indiens, de l'autre côté, on les a soumis à l'impôt. On les a soumis à l'impôt, et en fait, c'est ce qui s'est passé. Si vous voulez, ces gens ne savaient pas ce qu'était l'impôt, normal. Donc, ils ont été un peu surpris de devoir payer des impôts. Donc on ne leur a pas expliqué que c'était des impôts, on leur a expliqué qu'on leur achetait les fourrures. Et puis ceux qui envoyaient les fourrures au tsar, d'accord, eh bien, payaient ces fourrures, sous-payaient ces fourrures aux autochtones, qui eux ne savaient pas qu'ils étaient sous-payés, en gros. Ça, c'est les données historiques qui nous l'apprennent. Et d'ailleurs, à la fin, ça n'a pas duré bien longtemps, parce que à la fin, vous savez, c'est comme dans Astérix ou dans les films avec De Funès, quoi, le gars qui s'enrichit, et plus ça va, plus il s'enrichit, plus il en veut pour lui, et moins il en veut pour celui qui est loin. Et donc, très rapidement, cet impôt, il a été concurrencé par des ventes privées. D'accord, c'était... Toujours est-il que ceux qui chassaient, c'était les Yakoutes, les autochtones. On les faisait chasser. Ils sont devenus incroyablement riches. D'accord, incroyablement riches par rapport à ce qu'ils étaient. Des échanges avec la Chine, notamment. Et les Russes leur ont aussi apporté, malheureusement, des maladies, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, on peut les étudier, ces gens. On peut les étudier parce qu'on a une partie de leur corps qui sont bien conservés, vous voyez, dans des cercueils en bouleau. Et surtout, on sait qu'ils étaient chefs. Quand vous étiez chef, vous avez une bague de chef de clan. Eh bien, on s'aperçoit que tous les chefs de la Mongolie, ils appartiennent aux deux fameuses lignées en question. Ils appartiennent aux deux fameuses lignées en question, et quand vous étiez chef, eh bien, vous aviez plusieurs femmes. Donc, si vous aviez plusieurs femmes, vous aviez beaucoup d'enfants. Okay. Et donc, ce qui fait qu'ils sont arrivés au XIVe siècle, au XVe siècle, ils ont commencé à s'implanter. Il y en a qui en ont... Il y a deux lignées qui en ont supplanté d'autres. D'accord. Quand je dis deux lignées, ce n'est pas forcément un homme seul. Ça peut être un homme, ses fils, ses cousins, etc., du côté paternel. Et quand les Russes sont arrivés et ont augmenté le trafic, ont commencé à faire du trafic avec eux, ceux qui étaient déjà un peu riches au départ sont devenus incroyablement riches. C'est un processus qu'on connaît bien à l'heure actuelle. Donc, ils sont devenus incroyablement riches. Et devenant incroyablement riches, ils ont pris plusieurs femmes, ils ont eu plus d'enfants que les autres, et donc, ils se sont répandus à la population. Là-dessus, la Seconde Guerre mondiale arrive, le temps passe, le commerce des fourrures aussi, la Seconde Guerre mondiale arrive, Staline envoie au front, notamment les troupes yakoutes, d'accord, avec la fameuse phrase, de toute façon, nous avons plus une balle par homme et par yakout, comme nous avons plus de yakouts que d'allemands, nous allons gagner. Okay. Donc la population yakoute est totalement décimée. Okay. On comprend pourquoi, non pas le 8 mai, mais le 9 mai 45, avec le décalage horaire, et pour une date importante, la population yakoute masculine est laminée, et on se retrouve avec le cas de la peste, un effet fondateur. D'accord. c'est-à-dire que ceux qui déjà étaient très nombreux, un peu plus nombreux peut-être que les autres, avant le XVIIIe siècle, ils sont devenus franchement nombreux, et puis à la fin, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une diminution de la variabilité, et on se retrouve aujourd'hui avec 50% de la population qui descend de deux hommes. Alors je vous ai donné cet exemple parce que c'est la différence de la Mongolie. À Mongolie, on ne retrouve plus les hommes. Tandis qu'ici, en fait, il y en a deux qui sont à l'origine de la 50% de la population. C'est un exemple aussi important, unique au monde. Mais pas tant que ça, parce que si on prend le Canada français actuel, le Canada français, si vous voulez, on sait qui est parti. On a des listes, des registres, etc. Et puis vous savez, on a tous appris ça à l'école, Montcalm est battu sous Québec, la France perd le Canada, etc. Et donc les Canadiens français, ils évoluent pour eux-mêmes. Actuellement, pour un Français qui est parti au Canada, il y a 800 Canadiens français. D'accord ? Donc vous voyez un peu l'expansion démographique que ça représente. Ça, c'était une partie qui était sans intérêt. Vous avez une vue d'Alas, là, vous voyez, ces fameuses prairies dont je vous parlais. Et pour vous dire que c'était des régions qui aussi, ils ne sont pas partis non plus là-bas au nord sans savoir pourquoi, c'est parce qu'elles avaient été explorées anciennement par des gens en bateau dont on retrouve les pétroglyphes. Alors je termine sur un troisième exemple. Premier exemple, organisation des nécropoles, disparition des lignées masculines. Deuxième exemple, je vous ai surtout parlé de peuplement, et justement les lignées masculines qui sont, je dirais, qui expliquent le peuplement actuel de ces populations autochtones. Et puis, troisième élément, quand même, on plonge un peu plus dans le temps, l'évolution, les maladies. Que se passe-t-il quand on n'a pas trop d'ADN ? Égypte, Haute-Égypte, ici, site d'Adaïma, 70 km au sud de Louxor, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'Égypte, pour les autres, il faut y aller. Datation, civilisation nagadienne, prédynastique, environ 3700 à 3000 avant Jésus-Christ. Donc là, on s'enfonce un peu plus dans le temps. Un cimetière, dont on voit ici le cimetière de l'Est. Le cimetière de l'Ouest serait ici, occuperait toute cette surface. L'habitat est ici, il continue à peu près jusque-là, d'accord. Ici, vous avez une zone où vous avez les tentes des fouilleurs, la mienne, comme dirait prétentieux, qui était occupée au prédynastique par un marécage, et ici, là, la plaine du Nil. Vous voyez que 3700 avant Jésus-Christ, le Sahara commence à s'assécher sérieusement, mais il reste encore des hippopotames dans cette zone, et c'est à partir de 3000 qu'en fait on va se retrouver ici et que donc le prédynastique va être, les habitats prédynastiques vont être abandonnés. Une nécropole, je vous l'ai pris comme exemple, parce que la question qui se pose, c'est que faire et qu'allons-nous faire, si vous voulez, dans les années qui viennent ? D'accord ? C'est la question centrale. Ma fille, droit à l'image, d'accord ? Elle est majeure, elle me l'a rappelé hier quand elle a vu cette diapositive. Ok. ADN intact, je l'espère. D'accord. Ensuite, un fossile, interrogation de Michel Brunet. Est-il complètement dégradé ? C'est la grande question qu'il y aura à résoudre dans les années qui viennent. Il n'est pas sûr qu'il soit totalement dégradé. On peut penser qu'il y a des petits fragments d'ADN qui sont collés actuellement contre l'hydroxyapatite de calcium. D'accord. Donc, il n'est peut-être pas totalement... Et donc, dans des ADN, là, on est dans cette frange du milieu. Eh bien... Que faire ? Eh bien, tous nos efforts tendent évidemment vers, dans un premier temps, vers ceci, vers des ADN qui vont être très dégradés. Mais actuellement, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes dans des zones, par exemple en Égypte, qui sont très particulières. Conservation macroscopique exceptionnelle. Regardez, paillettes de sang dans les orifices de la base du crâne. Regardez leur couleur. Sujet qui a du phare vert, ici, entre les orbites. On le voit un peu sur la diapo, ça. Donc, conservation macroscopique exceptionnelle, mais un ADN qui est excessivement dégradé. Les tombes sont dans le sable, tout se conserve bien, 40 cm sous la surface. Là, il ne fait pas moins 50 degrés en janvier et février, mais en janvier, quand nous y fouillons, il fait 50 degrés au-dessus de zéro, d'accord, à 1h de l'après-midi. les ordinateurs disjoncts. Donc, actuellement, dans ces contrées, nous pouvons étudier une toute petite partie d'ADN, d'accord, mais nous restons quand même largement tributaires de ce qu'on appelle les caractères discrets, en fait l'anatomie, dont cher à Michel Brunet ici, si vous voulez. Et cette anatomie nous permet quand même, ce qu'on appelle les caractères discrets, donc qui sont des petites particularités, des codes bifides, etc., d'étudier certaines relations de parenté, de pouvoir montrer, par exemple, que dans cette sépulture, cette femme qui tient cet enfant dans ses bras, bien, cet enfant lui était lié d'un point de vue génétique. Alors là, on ne peut pas dire si c'est sa mère, sa tante, mais en tout cas, ils étaient très proches, d'accord. Ils partagent des caractères discrets en commun, ils ont été inhumés en même temps. Une remarque, c'est très touchant, mais attention, ça a été mis en place exprès pour que le seul soit. Elle ne l'a pas pris dans ses bras, ils ne sont pas décédés comme ça. Eh bien, si on se pose la question, c'est une grande question, d'où venaient les Égyptiens ? D'où venaient les Égyptiens ? Alors, on connaît tous l'Égypte, et quand je dis on connaît tous l'Égypte, on connaît qu'est-ce que c'est que l'Égypte ? C'est un État qui se met en place vers 3000 avant Jésus-Christ, et où apparaît l'écriture avec un pharaon, d'accord, qui va régner sur la haute et la basse Égypte. Et ce pharaon y règne. Pourquoi ? Parce qu'il a unifié un pays. Mais d'où venaient les Égyptiens ? D'où venaient les Égyptiens ? C'est une des grandes questions. On ne sait pas trop. D'accord. On ne sait pas trop pourquoi. Eh bien, on ne sait pas trop parce que lorsque le Sahara était verdoyant, d'accord, eh bien, l'Égypte était le Nil, la vallée du Nil était un immense corridor luxuriant et on avait des chasseurs-cueilleurs. D'accord. Et on a très peu de données, curieusement. Souvent, on voit marqué dans certains bouquins et le néolithique arrive en Égypte. D'accord. Ça, c'est vrai pour là-haut. Et puis, il diffuse vers le Soudan. Ça, c'est... Le gars, il n'y est jamais allé, il ne sait pas ce qui se passe. D'accord. Le néolithique n'a jamais diffusé vers la vallée du Nil. Peut-être sur les contours de la vallée, mais par la vallée, non. Dans la vallée, il y avait des chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans un espèce de paradis. Donc d'où viennent les populations égyptiennes ? Reste une grande question. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y avait avant le prédynastique ? Avant le prédynastique, on ne sait pas trop. Mais au prédynastique, on voit apparaître une civilisation dans toutes ces tombes, dont on voit très bien qu'elle est la précurseur de la civilisation égyptienne. Donc une des grandes questions, c'est d'où venaient ces gens ? Donc on se dit, peut-être ils viennent de l'assèchement du Sahara, etc. On ne sait pas trop. En revanche, si on se pose la question de comment s'est mis en place le peuplement de l'Afrique, le tout en 3 minutes, nous avions une nappe au nord que j'ai appelée proto-berbère parce que, bon, en tout cas, qui étaient des gens, si vous voulez, quand on étudie leur ADN mitochondrial actuellement, ils sont comme nous, c'est des Méditerranéens. On a une nappe au sud qui est peu connue, mais cette nappe au sud, elle comprenait des chasseurs-cueilleurs ou des agriculteurs, d'ailleurs, qui développaient ou quelque chose qui n'était ni des chasseurs-cueilleurs ni des agriculteurs. Nos mots ne sont pas suffisamment fins pour les définir. Mais en tout cas, des populations qui avaient parmi elles, et ça, la génétique actuelle nous le renvoie, qui avaient parmi elles les premiers hommes modernes, si vous voulez, et parmi leurs descendants de ces premiers hommes modernes, on avait notamment des pygmées, d'accord, et ce qu'on appelle des Bushmen, d'accord, mais sur lesquels on pourrait épiloguer. Et ces pygmées et ces Bushmen sont actuellement dans les populations contemporaines, pour autant qu'on puisse le savoir sur la génétique, ceux qui, sur certains marqueurs génétiques, sont les plus proches des hommes modernes. D'accord. Eh bien, ces Bushmen, que certains d'entre vous connaissent par cet homme qui a joué dans Les dieux sont tombés sur la tête, ces Bushmen, ils ont une particularité morphologique, ils en ont beaucoup, si vous voulez. Mais ils en ont une qui se retrouve sur leur canine supérieure, dite canine Bushmen, qui est un petit sillon particulier. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces populations en Afrique ? Eh bien, dans ces populations en Afrique, donc on avait certainement ces populations de chasseurs-cueilleurs, mais je vous ai mis les Bushmen et ces San, mais on ne sait pas exactement où ils étaient. On sait actuellement que les pygmées sont par là, que les Bushmen sont par là, mais on ne connaît pas grand-chose. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'aujourd'hui, les Bushmen, ils sont ici, mais ils ont une langue à clic, là. Et ces langues à clic, on en retrouve aussi dans cette région. Et on sait, si vous voulez, qu'il y a environ en 3000 avant Jésus-Christ, il y a une, parmi ces gens qui vivaient là, il y a une population, certainement dans ce groupe, qui a connu une énorme expansion démographique qu'on appelle l'expansion bantoue. Et ces bantous se sont répandus dans toute l'Afrique, avec un schéma qui est beaucoup plus compliqué que celui que je vous ai mis ici. Ils se sont répandus dans toute l'Afrique, et finalement, les pygmées se sont retrouvés dans les endroits où ils sont aujourd'hui, si vous voulez, et les San se sont retrouvés ici. Et alors, ce qui est totalement étonnant, c'est que les Égyptiens actuels, la canine Bushman, 0%, d'accord. Or, à Adaïma, nous avons la chance d'avoir fouillé 1000 tombes. Et sur ces 1000 tombes, chance, nous avons fouillé un cimetière d'enfants de plus de 350 tombes. Sur les enfants ont ceci de particulier, c'est que les canines sont incluses encore. Si vous voulez. Et comme elles sont incluses, elles sont très bien conservées. On a pu les étudier. Eh bien, à Adaïma, vous avez 25% de canines Bushman. C'est-à-dire qu'au 4e millénaire avant notre ère, d'accord, une partie de la population égyptienne avait encore en elle des gènes, des chasseurs-cueilleurs, etc., qui habitaient l'Afrique à ce moment-là. Une fois qu'on sait ça, c'est pas étonnant, ça s'explique, d'accord. Tout s'explique, mais et ça, ce qui est assez extraordinaire, c'est l'anatomie comparée qui nous l'apprend, d'accord. Et ensuite, c'est prédynastique pour des raisons que nous ignorons totalement, que nous ignorons totalement. Ont certainement donné naissance aux populations égyptiennes, mais en tout cas, la partie canine Bushman, ils l'ont perdue. Donc, il y a eu une évolution de ce pool génétique. D'accord. Et d'où venaient ces Égyptiens, ces prédynastiques? On a des éléments actuellement qui permettent, un élément juste, qui permettent de penser qu'ils venaient certainement de la région du lac Tchad. Okay. Lac Tchad, Soudan, ils remontent dans la vallée, ça donne naissance aux populations prédynastiques égyptiennes. Dernier élément, je conclue là-dessus, on peut quand même étudier tout ça, si vous voulez, c'est de l'histoire du peuplement, mais c'est finalement assez descriptif. Donc ce qui est intéressant, c'est de se demander, mais qu'est-ce que c'est qui a fait cette histoire du peuplement? Je vous l'ai dit, on le sait, par exemple, c'est la grande peste en Europe, mais pour le prédynastique, est-ce qu'on en a des éléments? Eh bien, pour le prédynastique, nous en avons des éléments. Nous avons découvert ce qui était à l'époque les plus anciens cas de tuberculose, et il y en avait incroyablement dans cette population, et nous nous sommes aperçus qu'en fait, dans la nécropole d'enfants, qui débute à cette phase ici, d'accord, la nécropole d'enfants, 350 tombes, elle débute ici, ça se termine ici, ça dure 4 siècles. Ici, aucun cas de tuberculose. Ici, de la tuberculose avec des pics qui diminuent, ça monte rapidement et ça diminue sur 2 siècles. Ça s'appelle une tuberculose en phase épidémique. C'est ce qui a été mis en évidence chez les Indiens du Canada au XIXe siècle et chez les tribus amazoniennes quand elles ont été ravagées par la tuberculose. L'épidémie dure 2 siècles, d'accord. Elle va tuer une bonne partie de la population. Tous en étaient atteints, mais tous ne mouraient pas. Et ceux qui ont survécu, si vous voulez, ont donné les populations contemporaines. C'était une tuberculose qui n'avait strictement rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui, parce que nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu à la tuberculose depuis, je dirais, au moins 10 000 avant Jésus-Christ. Okay. Donc on a actuellement une tuberculose, nous, et qui en Europe, si vous voulez, est une... Je ne vous parle pas de la tuberculose qui touche malheureusement les gens qui sont atteints du sida, parce que là, ils sont dans un syndrome d'immunodéficience. Mais en tout cas, pour les autres, si vous voulez, on a une tuberculose qui va commencer, qui est une toux, des choses comme ça, enfin pulmonaire et autres. Tandis que dans ces populations, on avait une attaque généralisée, d'accord, des enfants dès l'âge de 8 mois et qui allaient mourir avec un pic entre 2 ou 3 ans. C'est ce qu'on retrouve encore dans certaines populations qui ont été en contact avec des Européens il y a 100 à 150 ans et qui sont toujours dans la phase active de l'épidémie. D'accord. Et actuellement, ce qui est en jeu, c'est ce que décrivent bien nos collègues épidémiologistes, c'est qu'il y a des gènes de susceptibilité à la tuberculose. D'accord. Il y a des gens qui vont faire plus de tuberculose, qui ont plus de chances ou de malchances de faire une tuberculose que d'autres, mais tous ces éléments-là se sont mis en place progressivement. Et je terminerai pour vous dire que ce qui a modelé les populations contemporaines, d'accord, il y a eu des éléments sociaux, je vous l'ai démontré avec les Yakout, il y a des éléments qui sont infectieux, et je vous le suggère aujourd'hui avec les populations prédynastiques, mais il y a quelque chose qui est remarquable, et que me disait dernièrement un collègue, le mot n'est pas de moi, je dirais, malheureusement, d'accord, c'est que toutes les maladies que nous connaissons ont été émergentes à un moment. D'accord. on parle aujourd'hui de maladies émergentes, mais toutes les maladies que nous avons aujourd'hui ont été émergentes à un moment dans l'histoire humaine. Elles ont modelé les populations, et elles ont modelé les populations par des facteurs de sélection qui ont été génétiques. Nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu à la grande peste. D'accord. Et je vous terminerai sur ce mot en vous remerciant, en vous disant qu'effectivement, la tuberculose peut être étudiée aussi. Là, en revanche, l'ADN de la tuberculose se conserve mieux que celui humain parce qu'il y a certaines hypothèses. La mycobactérie tuberculeuse, donc l'agent de la tuberculose, est dans une coque qui permettrait peut-être une meilleure conservation. Nous avons pu étudier cette mycobactérie tuberculeuse et nous savons que cette mycobactérie tuberculeuse est différente d'aujourd'hui parce que s'il y a une évolution de l'homme, il y a aussi, de façon en parallèle, ce qu'on appelle la coévolution, une évolution des bactéries qui l'intéressent. Je voulais, d'une part, vous remercier de votre attention et, d'autre part, vous dire que, bien évidemment, si tout ce que je vous ai représenté ici, ce n'est pas Eric Crubezi, c'est une grosse équipe sur le terrain en Yakoutie, une grosse équipe en Égypte et aussi une grosse équipe en laboratoire. Merci à vous.